Bonsoir et bienvenue dans la tribune de la presse ce vendredi 9 avril 2010. Deux grands thèmes ce soir. D'abord, un dossier sur la province de l'Équateur, en commençant par la situation sécuritaire dans cette province. Après les affrontements dimanche dernier entre les insurgés émilés et les FARDC, nous resterons dans cette même province pour nous rendre à l'Assemblée provinciale, où un nouveau bureau a été installé après un coup d'effort de certains députés dits acquis au changement. Et dans notre dernier terme, nous irons dans la province de Katanga, où le gouverneur de cette province menace de fermer l'aéroport international de la Loano si d'ici fin avril, les travaux de réhabilitation de la piste n'ont pas encore démarré, ce qui nous pousse à faire un état des lieux des aéroports de la RDC. Pour en parler avec moi dans cette émission, Thierry Leduca, rédacteur en chef de la télévision Canal Pin, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Thierry.
Clément Zaou, directeur général de la radio TVS1, une radio privée aussi qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Clément.
Bonsoir Thierry.
Et Marie-Théodore Kipoulou, journaliste indépendant évoluant à Bandundouville dans la province de Bandundu. Bonsoir Marie-Théodore.
Bonsoir Radio Capi.
Voilà, bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse a abordé les sujets que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec Aimé Kamoua.
Bonsoir. La plupart des journaux parus cette semaine à Kinshasa sont revenus sur la situation sécuritaire en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Forum des As, qui parle des retombées de la crise en Mbandaka, pense que la visite du chef de l'État dans cette province est un réconfort pour cette population. Joseph Kabila en Mbandaka, les mystères émêlés doivent être éclairés, titre l'Avenir. Ce journal s'interroge maintenant sur le fondement même de l'action des émêlés, qui n'auraient pas gagné la bataille, même s'ils avaient pris la ville de Mbandaka. Les phares font savoir que ce sont les casques bleus de la MONUC, fort d'un contingent d'environ 40 militaires armés d'auto-blindés, qui ont largement contribué à la récupération de l'aéroport de Mbandaka. L'Observateur, pour sa part, estime que l'attaque de Mbandaka est l'expression d'un dysfonctionnement et d'une inefficacité légendaire de nombreux services spécialisés en charge de l'ordre public et de la sécurité. La tempête des tropiques, qui parle aussi de la situation de Mbandaka, révèle qu'après les combats, on tend vers une crise alimentaire. Selon ce journal, les biens des premières nécessités sont de plus en plus rares. Les prix ont sensiblement augmenté. Les marchés et les magasins sont restés fermés à cause de la situation sécuritaire précaire. Sur un autre registre, la tempête des tropiques titre sur la menace de fermeture de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. L'état défectueux de la piste de cet aéroport révolte le gouverneur Katumbi. Et, selon ce journal, l'ADG de la RVA, Jean Assise, doit se justifier. Terminons cette revue de presse avec l'assassinat de notre confrère des RTNC Beni. À ce sujet, l'Avenir affirme que le président Joseph Kabila promet des sanctions contre les assassins.
Merci Aimé Kamoua pour cette revue de presse. Thierry Lébica, un petit commentaire par rapport à ce journal de journaux que nous venons de suivre, surtout sur l'assassinat de notre confrère de la RTNC Beni.
À quelques deux mois du cinquantenaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui peuvent rassurer. Hein. L'Est du pays ont tué un confrère, je commence par là. C'est toujours malheureux d'entendre de telles nouvelles. Il y a des pays où de choses comme ça ne se font plus entendre, même des pays africains, voisins ou autres. C'est malheureux d'entendre parler des journalistes tués à l'Est du pays, de Congolais, de gens qui sont venus chez nous pour nous aider de la MONUC, mourir à l'Équateur. Le Moïse Katumbi qui menace de fermer l'aéroport. Ce sont des très mauvaises nouvelles qui ne rassurent pas quelques jours du cinquantenaire. Et pourtant, 50 ans après, ceux qui nous gouvernent devaient faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui.
Clément Zaou.
Ben, je pense que tant que le gouvernement n'aura pas mené des enquêtes sérieuses, fouillées autour de tous ces actes d'assassinat, celui-ci c'est le sixième, je pense qu'il y en aura toujours. Si on continue à tuer les journalistes, c'est parce que ceux qui ont tué avant courent encore les rues. Si on continue à tuer aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu de sanctions exemplaires, il n'y a pas eu d'enquêtes sérieuses carrément prouvé qu'on a mis la main sur les vrais commanditaires de ceux qui sont en train de tuer les journalistes. Tant qu'on n'y arrivera pas, eh bien, on continuera, je ne sais pas, demain, ce sera le tour de qui.
Merci Clément Zaou. Marie-Théodore Kipoulou, vous intervenez à partir de Bandundouville. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans votre province?
Bon, la situation dans la province de Bandundouville est relativement calme. Évidemment, il y a cette, la déposition du bureau de l'Assemblée provinciale pour des raisons politiques certainement. On y reviendra peut-être plus tard. Mais sinon, dans l'ensemble, la province est calme.
Un mot par rapport à l'assassinat de notre confrère?
Bien. Écoutez, l'assassinat de notre confrère dans le pays, quand il y a mort d'homme, et ça doit tout naturellement frustrer tout le monde. Et la presse au Bandundu en général ne comprend pas que cette situation perdure l'assassinat des journalistes. De toutes les façons, nous sommes de cœur et de frais avec tous nos confrères qui sont dans l'est du pays, même ceux qui sont en Kinshasa, ceux qui traversent une période difficile comme ceux qui la traversent dans l'est du pays.
Merci Marie-Théodore. Premier thème de ce soir, situation sécuritaire dans la province de l'Équateur après les affrontements dimanche dernier entre les forces loyalistes et les insurgés Emile Mbandaka. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé hier, jeudi, à Mbandaka, au moment où cette ville se remet progressivement de l'attaque des insurgés Emile dimanche dernier. La réunion du Conseil supérieur de la défense qui est tenu hier soir dans la soirée. Aucune précision sur l'ordre du jour, mais on imagine qu'il a été question des attaques à répétition des insurgés Emile et surtout de la dernière agression. Les points avec Jean-Michel Livula Mopolo.
Le chef de l'État a été accueilli par Adolphe Mouzito et Jean-Claude Bayindé, respectivement premier ministre du gouvernement central et gouverneur de l'Équateur. Cette visite du chef de l'État à Mbandaka intervient 4 jours seulement après l'attaque des insurgés Emile dans la ville. Des sources officielles indiquent que certains membres du gouvernement central, notamment Charles Mwande Simba et Léonard Kambéré, ainsi que quelques officiers militaires des FARDC, ont également fait le déplacement de Mbandaka. L'agenda de Joseph Kabila à Mbandaka n'est pas encore connu, mais comme initialement annoncé, on croit savoir que le chef de l'État et sa suite auraient choisi Mbandaka pour y tenir une réunion du Conseil supérieur de la défense. L'Équateur attend beaucoup de cette visite du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la sécurisation de la province contre les attaques en répétition des insurgés Niel actifs dans cette partie du pays depuis 2009. Mbandaka, Jean-Michel Liboula Mopolo, Radio Okapi.
Clément Zaou, vous êtes directeur général de la radio TVF1, une radio privée qui est née depuis Kinshasa. Comment on peut comprendre cette nouvelle attaque des émulés alors qu'on sait que le gouvernement nous avait fait croire que ces rebelles ou insurgés étaient anéantis?
Je pense que c'est là le vrai problème de cette situation. D'abord, je voulais saluer la présence des autorités nationales à Mbandaka. Leur présence est un appui psychologique à la population mbandakaise et qui a vécu 3 journées tout à fait troubles. J'estime qu'avec la présence du Premier ministre, du chef de l'État et les autres, la population de Mbandaka peut espérer que la haute hiérarchie du pays est venue justement pour solutionner les problèmes. Mais je pense qu'il faut tirer des leçons. Et ces leçons, si on était dans des pays respectés, on aurait pu déjà assister à des démissions en cascade. Parce que, le gouvernement, par la bouche de son porte-parole, nous avait dit que les émiliés, c'était des petits villageois qu'on pouvait négliger et qu'ils avaient été anéantis. Certainement que le porte-parole du gouvernement parlait après avoir été tenu informé du fait que les services de sécurité, l'armée et la police avaient fait comme travail sur terrain. Certainement qu'il a eu des éléments d'information de la part et du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. Mais grande a été notre surprise de voir que des gens qui prennent place à bord d'un bateau, qui quittent un coin vers un autre, ça fait plusieurs kilomètres. Aucun agent de renseignement n'est arrivé à appréhender ces gens-là. Ils arrivent à l'Équateur. On nous annonce que c'était des gens suffisamment aguerris, bien préparés, qui font une promenade de santé entre le port de Mbandaka jusqu'à l'aéroport, jusqu'à prendre l'aéroport et à paralyser toute la ville. Et les autorités militaires et des renseignements nous disent qu'ils ont été surpris, ils ont été pris du coup. Je pense que là, il se pose un vrai problème. Sous d'autres cieux, je pense qu'on aurait assisté à des démissions en cascade. Et j'ose espérer qu'à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense tenu hier à Mbandaka, certainement que le chef de l'État et le Premier ministre devaient tirer les leçons. Et tirer les leçons, cela veut dire qu'il faut commencer par sanctionner. Si on ne sanctionne pas, je pense que ce sont des choses qui risquent de se répéter.
Thierry Lébica, vous êtes rédacteur en chef de la télévision Canal Kin, c'est une télévision privée aussi qui est née depuis Kinshasa. Est-ce qu'on peut parler de la faiblesse de nos services de renseignement?
Pas seulement faiblesse, mais extrême faiblesse. Pourquoi je le dis? Parce que nous qui sommes en ville tout le jour, nous qui fréquentons un peu le restaurant, les hôtels, pas pour y dormir, hein, pour visiter les gens, tout ça, nous savons voir de gens de renseignement partout dans les taxibus et tout ça, mais là, ils disent ils n'y sont pas. C'est vraiment anormal. C'est là que nous nous rendons compte que beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme cela devait être dans notre pays. Tout est politisé. Au lieu de faire le vrai travail de sécuriser les populations congolaises, les services de renseignement sont utilisés à des buts politiques. C'est vrai que les renseignements servent aussi à des buts politiques, mais c'est essentiellement pour sécuriser les populations et les mettre dans un état d'inquiétude comme il le faut et comme on le voit sous d'autres cieux. Ça, c'est une chose, mais je voudrais aussi réagir par rapport à l'intervention de notre confrère de Mbandaka. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai détenu deux fausses notes. Lesquelles? Clément l'a salué, les réconforts de la part du gouvernement. Mais je regrette que même la radio Okapi ne soit pas en mesure de nous dire qu'est-ce qui s'était dit après le Conseil de sécurité. C'est normal.
Non, mais radio Okapi ne travaille pas à la présidence, on ne fait pas partie du Conseil de sécurité.
C'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit que la radio Okapi est parmi les médias les mieux informés de la République. Tant qu'Okapi n'a pas d'informations, j'ai bien peur que Canal King génère rien et pire qu'à la fine, que RTVS1 est près de BDD, mais par contre, nous là, nous ne savons rien. Après ce qui s'est passé à Mbandaka, le gouvernement avait entre autres devoir de démontrer aux Congolais que on maîtrisait la situation. Or, après un conseil de sécurité, tout le tapage qui a eu dessus, le réconfort du chef de l'État, que nous ne sachons rien de ce qui s'est dit hier à Mbandaka, c'est encore un grand signe d'inquiétude. Deuxième chose, on va y revenir, mais j'oserais en parler à l'instant, parce que notre confrère a cité ceux qui étaient à l'aéroport. Il a cité les gouverneurs, il a cité les généraux, le membre du gouvernement qui était déjà sur place, qui ont précédé le chef de l'État, mais il a manqué de citer qui représentait l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est parmi les personnes qui ont cassé des portes le 30 dernier qui était à l'aéroport et qui a tenu la main du chef de l'État. Vous voyez quelle démocratie nous avons dans notre pays, des gens qui cassent de portes, qui chassent le président Mondombo et tous au bureau, une semaine après, ils sont salués par le chef d'État. Moi, ça me rappelle le pape Jean-Paul II en Amérique latine qui chasse un prêtre tout simplement parce que le prêtre faisait de la politique. Une image forte, le jour que le pape est décidé, on est revenu sur cette image. Je croyais que le président de la République allait dire, messieurs, tu n'es pas encore propre, tu n'es pas encore le président établi, je t'ai salué pas. Mais bon, malheureusement, il l'a salué, autrement, on va y regretter qu'il cautionne lui aussi ce qui s'est passé comme hold-up à la fin pour de l'Équateur. Ce sont les deux fausses notes que j'ai retenues, et plus tard, on pourra revenir sur d'autres aspects.
Marie-Théodore Kipoulou, vous intervenez depuis Bandundouville. Comment vous analysez-vous cette nouvelle attaque des émilés
dans la province de l'Équateur? Pour nous, à Bandundou, avec les briques d'informations que nous avons, spécialement celles que nous suivons, soit par les radios, soit par la télévision, il y a d'abord eu ce que nous disons, comme toujours, il y a eu mort d'homme en Mbandaka. Ça doit interpeller tous les Congolais. La deuxième chose qui frappe, c'est cet assaut de Mbandaka, s'il faut l'appeler ainsi. Comment des gens venus par une baleinière ou un bateau atterrissent à côte en Mbandaka, arrivent à prendre l'assaut de l'aéroport de Mbandaka, la résidence du gouverneur. La question première qui se pose, mais où s'est trouvé les services de sécurité qui doivent garantir la sécurité de toute la population de Mbandaka? Comment ces événements se sont-ils passés sans qu'il y ait plus d'alarme pour que les gens sachent qu'il y avait un événement qui allait se passer dans Mbandaka? Et alors, il faut se poser ces deux questions principales. Si oui, tout était en place, alors il y a une trahison. Si tout n'était pas en place, alors c'est un abandon de poste. Donc, dans les deux cas, il y a eu quelque chose qui ne marche pas. Et les deux conseils qui viennent de parler avant viennent de le dire pratiquement d'une manière ou d'une autre. C'est tout le temps que nous sommes en retard d'information, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pour le temps, c'est on nous met en arrière pour savoir ce qui s'est passé, mais en réalité, on ne dit pas ça commence par où. Donc, ce qui étonne tout le monde à Bandundu, non pas seulement à Bandundu, mais dans tout le pays, comment ces choses arrivent dans une ville de Mbandaka, qui n'est pas une ville montagneuse, qui est une ville comme toutes les villes du pays, comme la ville de Bandundu, mais que les services de sécurité n'aient rien vu, n'aient rien entendu, n'aient rien su, et qu'il y ait eu finalement mort d'homme.
C'est bon, ça vous, on apprend que ces insurgés étaient lourdement armés. Comment expliquer ça?
Voilà, je reviens d'abord à l'inquiétude de mon confrère Thierry. Rien n'a filtré des réunions du Conseil supérieur de la défense. Je pense que je souscris à son inquiétude. C'est anormal. Anormal pourquoi? Parce que dans cette République démocratique du Congo, quand d'abord le chef de l'État se déplace, il est avec la RTNC. Et peut-être qu'il faut prendre les médias privés, c'est Digital Congo. Point, un trait à la ligne. Or, la plupart des journalistes qui voyagent avec les chefs de l'État se sont suffisamment familiarisés avec l'institution présidente de la République. À tel enseigne qu'il arrive des moments où ils sont dans l'incapacité de poser des problèmes, de poser des questions réelles aux chefs de l'État, c'est ce qui se passe. Ils attendent qu'il y ait un communiqué, une communication tout à fait formelle pour avoir ça. Mais s'il y avait des journalistes qui n'ont rien à voir, qui ont pour seule mission d'informer la population, ils se seraient avancés devant une autorité pour savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été réellement décidé au cours de cette réunion pour donner la vraie information à la population. On a soif de connaître les délibérations du Conseil supérieur de la défense. Jusque-là, rien n'a filtré. Tout simplement parce que on ne prend pas tous les journalistes. Vous savez, dans la diversité, on peut avoir suffisamment de bonnes choses. Ça c'est une chose. Je reviens au problème de la trahison avec les armes lourdes. Quelqu'un m'avait même dit que je pense que ces gens étaient déjà infiltrés dans la ville. Mais si c'est le cas, c'est encore grave. C'est encore grave. Si ils étaient infiltrés dans la ville, c'est encore grave. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre place à bord d'un bateau avec des armes lourdes et que même les membres d'équipage n'ont pas été en mesure de dire où le commissaire maritime n'a pas été à mesure de dire directement en bas un bateau qui arrive avec des gens lourdement armés. Ça, c'est grave. C'est dit qu'ils avaient déjà infiltré la ville de Mbandaka. Et là encore, ce sont des fausses notes pour ceux qui gèrent la ville, la province du Bandundu, beaucoup plus ceux qui gèrent la ville de Mbandaka.
Thierry, est-ce qu'après cette réunion de sécurité à Mbandaka, est-ce qu'on peut espérer à une solution pour mettre fin à cette situation dans cette province?
Non, je ne voudrais pas faire l'avocat du diable, mais je ne vois pas la solution dans les heures qui vont suivre, parce que j'ai la chance de connaître un peu la ville de Mbandaka. On dit que ils sont à 10, 16 kilomètres. Or, Mbandaka, c'est pas comme Kinshasa, hein. Mbandaka, il y a la forêt à côté, il y a le parc, tout ça à côté. Quand des militaires se cachent dedans, je ne vois pas. À l'heure actuelle, nos fardés, c'est en train de faire un bon boulot de toilettage autour de la ville de Mbandaka. Ce qui fait que les jours qui vont suivre continueront d'être difficiles pour les Mbandakais et les Mbandakaises qui pourront ne pas connaître une guerre comme celle qu'on a connue jour de Pâques, mais connaîtront toujours des militaires incontrôlés autour d'eux. Or, le rôle de l'État est celui de sécuriser au maximum la population. Quand on ne connaît pas le communauté, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Également, vous parliez tantôt là des armes utilisées par ces ignorés-là. Moi, je parle aussi des hommes, du nombre. Quand la MONUC ne connaît pas encore bien le nombre, on parle de 30, on parle de 40 par là, le vice-gouverneur provincial équateur lui montre les chiffres à 150. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils sont tellement forts que nous croyons qu'ils étaient nombreux. Ce n'est que ça. Les bateaux là, le fameux Malaïque, je ne sais pas quoi là, ils pouvaient contenir combien d'hommes en armes? À peine 20, 30, 50 par là. Le reste, comme mon estimé confrère venait de dire tantôt, était dans la ville avec la population il y a plusieurs jours. Et tous ceux qui ont des amis, de la famille en Mbandaka pour vous le dire, que les gens ont commencé à s'inquiéter de la situation il y a une, deux, trois semaines par là. Mais pendant tout ce temps, ici à Kinshasa, les gens disaient que tout allait bien. Je me rappelle bien du ministre Mende qui disait à moins de deux semaines que c'était que de poches de résistance, des militaires incontrôlés qui faisaient des bévues dans leur déroute là. Pire, le gouvernement Bayende a dit quoi le 30 mars dernier, qu'il en était fini avec les Inélis. Ce sont des gens comme ça qui devaient répondre devant les parlementaires, devant la population. Quand ils prennent la parole, c'est pour continuer de la même chose. Dieu merci que j'ai l'impression que le ministre Mende a compris. Ce matin, il était interviewé par une radio concurrente à la vôtre. J'ai senti que les discours ont quand même changé.
Restons dans cette province pour parler de l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale après un coup de force des certains députés dits acquis au changement. Pour la petite histoire, mercredi dernier, les députés dits acquis au changement ont cassé les portes de l'hémicycle et ont procédé à l'installation d'un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale. Aussitôt installé, ils ont institué un bureau provisoire présidé par l'honorable Bruno Likoukou, président de la commission politique, administrative et judiciaire. Après l'appel nominal, 59 députés étaient présents dans la salle. Aussitôt, un bureau de vote composé des présidents des groupes parlementaires et des représentants des commissions parlementaires a été mis sur pied. Sur place, le bureau de vote a enregistré deux candidatures, celle de Kili Osito du MLC, élu de Gemena au poste de président, et celle de Richard Mboyo et Luca de la Convention des démocrates chrétiens, élu de Boende au poste de vice-président. Chacun a procédé à la motivation de sa candidature. Après, ils ont été élus par acclamation. Thierry Lebika, comment analyser la démarche de ces députés?
Non, c'est du banditisme. Hein. Autant on a découlé ici à Kinshasa que le gouvernement cherche à amener à, comment, au CIO, comment on appelle encore l'autre prison là, Boulouo et tout ça. Les députés provinciaux comme ça sont tout simplement des gens à chercher ces endroits pour le mettre. Pourquoi pas au CPRK? Qui dit la constitution, qui disent des règlements d'intérêt de différentes assemblées provinciales. Les présidents convoquent de plénière. C'est pas un député de convoquer une plénière. La situation de crise à l'Équateur date de très très longtemps. On revient toujours à la responsabilité du gouvernement central. Qu'a fait le gouvernement central pour que cette situation n'arrive pas à ce niveau de pourrissement? Extrêmement rien du tout. Rien du tout n'a été fait par Kinshasa. Au contraire, on a l'impression que Kinshasa cautionne des telles situations. Pire pour l'Équateur, il fallait faire passer un bail des gouverneurs. On a cautionné tout ça. Et aujourd'hui, nous en sommes à une situation de non-retour du fait d'une volonté aujourd'hui là affirmée. Tout ce qui se passe à l'Équateur n'est pas loin de tout ce qu'on voit. J'en parlais tantôt avec mon confrère Temanda, où je l'ai suivi hier en discussion avec le secrétaire exécutif de l'AMP, qui n'a pas su répondre à la question autour de la situation au Maniema. La situation du Maniema n'est pas loin de celle de l'Équateur. L'AMP n'est pas un mouvement assez démocratique. On va avoir le pouvoir pour le pouvoir, et tous les moyens sont bons pour diriger ce pays. Nous ne savons pas jusqu'où ça va nous mener, hein, cette situation en général.
Marie-Théodore Kipoulou, vous êtes dans la province du Bondoundou. On apprend aussi que dans votre province, ça ne va pas très bien à l'Assemblée provinciale.
Oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'Assemblée provinciale, il y a la démission du bureau qui est partie. On attend les élections pour le lundi prochain et on en saura un peu plus davantage, parce qu'en fait, nous aurons à débattre de ce sujet qui défait la chronique dans la province de Bondoundou.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qui s'est passé. Eh bien, c'est depuis de longs mois déjà que les membres de l'Assemblée provinciale avaient mené des enquêtes et redressé des rapports au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale et demandé depuis de longs mois que l'exécutif provincial vienne s'expliquer sur la rétrocession qu'il reçoit du gouvernement central. Alors, depuis ce temps-là, il semble que le bureau n'a jamais voulu que l'exécutif provincial se présente devant le bureau, devant l'Assemblée provinciale, pour en discuter et en connaître les détails des aboutissants. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la province de Bondoundou, et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est l'essentiel puisque vous posez la question, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, pour l'exercice 2008, la province avait reçu, ou l'exécutif provincial avait reçu une somme de presque 5 milliards de francs congolais et n'a rétrocédé que 450 millions de francs congolais. Si on regarde l'ensemble de tous ces montants-là, on trouve que dans les 7 milliards, des 7 milliards que l'exécutif provincial a eu, il n'a rétrocédé à peine 500 millions d'entités décentralisées. Et si vous regardez ce que chacun doit recevoir, ça n'atteint même pas 3 millions de francs congolais pour toute l'année. Donc, cette forme de discorde a trop traîné, et ce qui a fait que les députés ont émis motion de déférence à l'endroit du bureau qui pourrait empêcher justement les félicités provinciales de venir s'exprimer sur tout ce fait-là dont on l'accusait. Mais à notre grande surprise, au lieu que le bureau écoute le rapport qui a été dressé par cette commission, eh bien, le bureau a plutôt préféré présenter purement et simplement sa démission.
Voilà, merci pour la petite histoire, hein, Marie-Théodore Kipoulou. Clément Zaou, cette situation s'observe actuellement dans presque toutes les assemblées provinciales de la RDC. À quoi est dû ce problème, à votre avis?
Ben, écoutez, j'ai la chance de faire la ronde de toutes ces provinces. J'ai été à l'Équateur, j'ai été dans les Bandundu, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, en province orientale. Quand je dis que j'ai été, c'est-à-dire que je suis chargé de cette situation, je suis ça de près disons, ça fait maintenant 3 mois que tout cela dégénère. Je pense qu'il y a un réveil au niveau des députés provinciaux. Après avoir observé 3 ans durant la marche de leur province, ils se sont dit trop c'est trop, on ne peut pas continuer à laisser nos exécutifs ou nos bureaux continuer à nous gérer de cette manière-là. Il y a eu ces réveils et il y a eu une volonté de changer. Mais par rapport à cette volonté de changer, il y a eu de certaines bévues. Et là, je vais distribuer des cartons d'abord au niveau de Mbandaka, au niveau de la province des Équateur. Carton rouge à Léon Bruno Likoki, qui est le président de la commission PAJ, qui moi j'appelle l'auteur intellectuel du coup d'État qui s'est déroulé au sein de l'Assemblée provinciale. Il est professeur de droit. Je pense que même si la plénière est l'organe suprême de nos assemblées provinciales, mais la plénière au niveau de nos assemblées ne peut être convoquée que par le président. S'il n'est pas là, c'est le vice-président. Mais également, carton rouge à tous ceux qui sont avec lui, notamment celui qui a été élu. On dit qu'il est du MLC. J'ai discuté dimanche au cours de mon émission avec le secrétaire général du MLC, qui était mon invité. Il a dit, mais il se pose un problème. C'est-à-dire que la constitution actuelle est en train de protéger les hommes politiques qui sont dans les formations politiques. Je prends votre exemple, vous êtes du PPRD, vous avez été élu. Vous trouvez que non, au sein du PPRD, vous ne trouvez plus votre compte, il y a quelqu'un qui vous donne suffisamment de moyens, qui est de l'acte. Vous prenez l'argent et vous trahissez le PPRD. Mais tant que vous n'avez pas dit que vous avez quitté le PPRD, vous ne pouvez donc pas perdre votre mandat au niveau du PPRD, au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'était un véritable problème. Le mouvement de libération du Congo avait quelques députés, plus les alliés, avaient certainement la majorité. Mais le MLC a eu à perdre. Et là aussi, c'est un carton jaune que je donne au mouvement de libération du Congo, parce qu'ils n'ont pas su justement gérer la petite majorité qu'ils avaient. Bien entendu, ils n'ont pas l'argent, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Et les députés cherchent l'argent à gauche à droite. Mais également, carton jaune à Edmond Mondombo.
Rapidement, Clément.
Et Ghislaine Gayo, parce qu'ils savaient bien qu'ils n'avaient plus la majorité au niveau de cette assemblée. Il ne fallait pas commencer à faire pour eux la situation. Ils auraient pu être élégant en organisant une plénière, justement, et à déposer leur démission. Je pense qu'il serait sorti quand même tout ça là. Mais je condamne. Je condamne la voie des faits. Je condamne ce coup de force au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Mais également, je condamne toutes les casses. Et c'est pas normal, c'est indigne de députés qui sont donc des élus du peuple. Mais pour l'Équateur, pour les Bandundu, j'ai discuté hier avec le président de cette assemblée.
Ça va le bon de façon générale.
De manière générale, hein, de manière générale. Je prends, de manière générale, j'ai discuté avec le président. Je pense que le président a été poussé à la démission. Il l'a dit que j'ai reçu l'ordre de la hiérarchie de l'AMP. Même pour le président de l'Assemblée provinciale de la province orientale, il a aussi été poussé. Et là où je ne comprends pas, l'AMP dit que nous voulons faire triompher la démocratie. Mais la démocratie, on en a parlé au niveau du Maniema. Les députés étaient en plénière, en train de discuter autour d'une motion pour évincer Didier Manara. La plénière avait été suspendue avec un mot d'ordre venu de Kinshasa, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'était un SMS qui disait « Suspendez tout, venez à Kinshasa ». Et depuis qu'ils sont là, ça fait près de 2 mois, l'Assemblée provinciale du Maniema est paralysée. Ils sont bloqués ici. Pourquoi ne pas
appliquer la démocratie pour les Maniema et le Sud Kivu aussi, ou le gouverneur aussi est devant ces mêmes problèmes.
Merci Kémoa, Thierry, on est menu.
Je ne suis rien à ce que mon estimé confrère vient de dire à propos de l'AMP, qui est un conglomérat vraiment compliqué là, il l'a si bien démontré. Mais je vais dire une chose à propos du bureau sortant qui était du MLC. Le président Mondongo avait convoqué une conférence de président la veille du coup d'État. Ah, c'est une chose, il faut le reconnaître. Deuxième chose, l'AMP n'a jamais condamné le fait que les députés tiennent de marteau pour casser du bureau de l'État. C'est anormal dans une république comme la nôtre. Dernière chose, à côté de cette condamnation de l'AMP, dernière chose, c'est le chef de l'État. On a dit tantôt qu'il est allé en Bandaka pour réconforter la population. Il doit aussi intervenir d'une manière ou d'une autre à tout ce qui se passe autour de sa province, notamment en commençant par l'Équateur. Pourquoi ? S'il ne le fait pas, les Congolais n'auront plus confiance en la démocratie. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui à un électeur de Mbandaka ? Faut-il encore aller aux urnes pour voter des gens qui seront un jour chassés par voie de marteau par d'autres élus ? Quelle image on a du pays ? À côté des troubles militaires, il y a aussi des troubles institutionnels qui font que 50 ans après, ce pays n'est pas toujours crédible et ne laissera pas dans quelques jours ici. Hein.
Merci Thierry. Les Bika, province de Katanga, le gouverneur menace de fermer l'aéroport international de la Luano. Si d'ici fin avril, les travaux de réhabilitation de la piste n'ont pas démarré. C'est notre dernier thème de ce soir pour Moïse Katumbi, trop c'est trop. Les différents cris de détresse lancés en direction de Kinshasa et de la régie des voies aériennes restent sans suite. La piste de cet aéroport est dans un état de délabrement très avancé et le pire guette la province de Katanga, a-t-il souligné. Si d'ici la fin du mois d'avril, les travaux de sa réhabilitation ne commencent pas, aucun avion ne pourra atterrir à Lubumbashi. Moïse Katumbi l'a dit à l'aéroport international de Lubumbashi en provenance de Kinshasa. Ses propos sont recueillis par Jean Gandou.
Quand je suis parti à Kinshasa, j'ai vu l'état de la piste, même en atterrissant. En tout cas, c'est un tombeau vers notre piste. La piste est tellement très dangereuse et à la fin du mois, si on ne commence pas les travaux, je ferme la piste de la Luano. Il n'y aura plus des avions qui vont atterrir parce que je ne veux pas cautionner des morts dans la province. Donc si on ne commence pas les travaux le 2-30, j'arrête. Je dois sécuriser la population congolaise et je dois aussi protéger les étrangers qui viennent et les investisseurs qui viennent. Trop c'est trop. Les 30, les travaux ne commencent pas, la piste est fermée.
Vous en avez parlé avec les autorités à Kinshasa ?
Je suis l'autorité de la province et je dois décider quand il y a un danger. La personne qu'on doit aller juger, c'est le gouverneur qui doit protéger sa population.
Marie-Théodore Kipoulou, journaliste indépendant évoluant à Bandunduville, comment comprendre ces décisions du gouverneur de la province de Katanga ?
Bon, évidemment, la radio capitale, c'est un peu difficile pour nous, à Bandundu, de comprendre exactement ce que veut le gouverneur de la province de Katanga. Et connaissant Moïse Katumbi Tshafo, je pense que sa volonté politique, c'est de voir ses droits être récupérés. Vous savez, la longue guerre qui existe entre le Katanga et le gouvernement central sur les rétrocessions, eh bien, tout cela a toujours posé problème. Aujourd'hui, c'est le gouverneur de Katanga monte aux enchères, plutôt monte au créneau et crie fort sur l'aéroport de Luano. Moi, je pense plutôt que c'est une façon d'interpeller le gouvernement central, de régulariser toutes les situations qu'il faut pour la province du Katanga.
Clément Zao, est-ce qu'il y a du ressort d'un gouverneur de province de prendre une décision comme ça?
Oui, je pense que Moïse Katumbi, c'est le représentant du chef de l'État dans le Katanga. Et lorsqu'un gouverneur qui représente le chef de l'État, il est l'œil et l'oreille du chef de l'État. Souvenez-vous, il y a près d'un mois, il y a un avion...
C'est pas lui qui gère les aéroports.
Oui, il y a un avion Ethiopian Airlines qui a terminé sa course au-delà de la piste. Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme, mais cet avion-là a été endommagé. Mais vous dites que c'est pas lui qui gère les aéroports, mais cet aéroport est basé dans sa province, dans sa juridiction. Et il ne va pas commencer demain à courir avec les équipes anti-incendie pour aller sauver des gens qui ont été victimes d'un crash. Même lui-même, il voyage suffisamment. Voyez-vous, il a un stade international à Lubumbashi où les autres équipes devront venir jouer après le travail de réfection. Je pense qu'il a pris une décision courageuse. En fait, c'est une façon de faire pression au gouvernement central pour dire
Les 5 chantiers, les infrastructures, c'est aussi nos aéroports. Donc c'est une nécessité impérieuse, c'est une urgence. Je pense que je dois saluer le courage de cet homme. Très peu de journalistes peuvent oser dire ça, que non, je ferme parce que je suis tout ça là. Mais lui a pris ce courage-là, il faut applaudir. Je pense que c'est comme ça. Si tous les gouverneurs peuvent faire comme lui, je pense que le gouvernement central pourrait se dire, écoutez, il y a péril à la demeure, il faut qu'on agisse. L'aéroport de Lubumbashi, c'est combien de kilomètres? Le kilomètre pour asphalter, ça fait combien? C'est 1 million de dollars. Si c'est 10 kilomètres, si c'est 20 kilomètres, c'est 20 millions de dollars. Entre 20 millions de dollars et perdre tout un avion, tout un Boeing, tout un Airbus, qu'est-ce qu'il vaut? Je pense que coup de chapeau pour Moïse Katumbi.
Cyril Ebissa, vous pensez, vous êtes aussi d'avis que c'est pour faire pression au gouvernement central qu'il a pris cette décision?
Faire pression, oui. Faire la politique, c'est aussi communiquer. Hein, le gouverneur a communiqué. Mais je ne suis pas d'accord avec mon confrère Marie-Théodore qui voulait dire monter les enchères. Je ne crois pas qu'il monte les enchères. Là, c'est un homme qui parle avec son cœur. Il faut rappeler aussi que le gouverneur Moïse Katumbi aurait pu être personnellement victime de l'accident d'avion dans ce même aéroport de la Loano. Le gouverneur Moïse Katumbi, deux choses à dire, est un homme tout à fait particulier, tout le monde le sait. Il fait bien ce qu'il a fait là, mais je prends la chose d'une autre façon. J'avance sur l'Équateur, excusez-moi, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. José Makila, gouverneur de l'Équateur, tient un tel discours, quelle serait la réaction de Kinshasa? Il faut se l'imaginer, hein. C'est là que le pays n'est pas très bien dirigé. Restons sur les aéroports pour en revenir. J'ai visité quelques pays africains, quelques pays occidentaux, tout ça. Nos aéroports sont les plus sales du monde. On peut se dire, hein. Celui qui nous suit peut me considérer en disant, par exemple, Tanzanie, le Sénégal, j'ai vu, Nairobi, j'ai vu, Bamako, j'ai vu. C'est parmi les aéroports du monde où vous vous sentez le moins bien du monde. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Et pourtant, nous sommes parmi les aéroports les plus chers du monde. Un avion qui reste sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili, ça vaut 10 fois plus qu'un avion qui reste sur Roi Charles de Gaulle. Comment on peut comprendre ça? C'est comme ça que je viens à la fin. Personne ne traîne ces avions ici à Kinshasa. Ça fait 30 minutes, vite, les gens montent, on fait les carburants, on balaye l'avion, on est parti vite. Pourquoi? Parce que nous coûtons très très cher. Les taxes de traversée, tout ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Où vont tout cet argent-là? Où va tout cet argent? Ça devait normalement servir en priorité pour arranger les aérogares, les pistes. On n'a pas d'aérogares. Pire encore, on n'a pas de pistes. Qu'est-ce qu'on a finalement dans ce pays? Et de quoi se poser toutes ces questions-là?
Théodore Skipoulou.
Bon, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je maîtrisais pas tellement bien toutes les données sur cette histoire de la fermeture de l'aéroport de Manoa à Lubumbashi. Mais néanmoins, je pense personnellement que si le gouverneur Moïse Katumbi Tchapouan est arrivé là-bas, il doit y avoir des raisons. Mais l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de fermer l'aéroport. L'essentiel, c'est comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est de trouver des solutions au problème qui s'est posé à Lubumbashi.
Et comment trouver ces solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réhabiliter nos aéroports?
Ah bien, les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est dialoguer. C'est dialoguer avec les parties intéressées à ces conflits.
Oui, c'est mon Zaou.
Oui, je pense que toutes les fois que nous voyageons, nous payons 50 dollars quand nous allons en dehors du pays et 10 dollars quand nous allons à l'intérieur du pays. L'aéroport de la Loano, c'est un aéroport international qui reçoit plusieurs avions internationaux, certainement, et qu'il y a des gens qui payent 50 dollars. Je pense que la RVA, tout autant qu'elle est en train de réhabiliter l'aéroport international d'Ndjili, la RVA doit mettre dans son agenda l'aéroport de la Loano comme étant une urgence. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on pourra entamer les travaux. Si cet argent ne suffit pas, il faut que les gouvernements aillent puiser dans la rubrique, ce qui vote le budget. Il y a une rubrique des urgences concernant
les
catastrophes. Ben oui, puisqu'on a eu l'argent pour amener à l'Équateur pour acheter les médicaments, certainement qu'il peut y avoir 5-10 millions pour cet aéroport. Parce que demain, s'il y a un crash, les gouvernements risquent de sortir plus que ne peut sortir maintenant en réhabilitant la piste. Je pense que là, vraiment, le cri de détresse est allé droit au but. Les ministres des Transports et voies des communications devraient s'atteler pour voir son chef direct, le Premier ministre, pour aller rapidement commencer les travaux à Lubumbashi.
Le problème ne se pose pas seulement pour l'aéroport de Lubumbashi. Dans d'autres provinces aussi, on retrouve ce même problème. Est-ce qu'il y a assez d'argent pour réhabiliter tous ces aéroports. C'est ça la grande question.
Mais diriger, c'est avoir de l'ingéniosité. Le gouvernement doit tourner sa tête pour savoir où trouver l'argent. Et qu'est-ce qui est prioritaire dans ce pays? L'aéroport de Goma. On cessera d'en parler. Tout celui qui a fait Goma peut vous dire que c'est parmi, bon, pas l'extrémisme, mais c'est parmi les aéroports les plus dangereux du monde. Les pilotes ne savent pas comment descendre sur Goma. Aujourd'hui, on parle de Lubumbashi, mais on aurait pu aussi parler de Goma. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait un autre avion qui tombe sur Goma pour que Goma rentre dans l'actualité et trouve des solutions pour Goma. Là, on appelle ça immobilisme. Quand l'opposition dit au gouvernement qu'il y a beaucoup d'immobilisme, le gouvernement semble ne pas écouter. Moïse Katumbi ne l'a pas dit exactement comme ça, mais ce qu'il dit, c'est rappeler au gouvernement qu'il y a beaucoup d'immobilisme dans ce pays. Le problème avec l'aéroport de Lualua, Lubumbashi, ne commence avec Moïse Katumbi. Ceux qui suivent l'actualité savent que Tshopen a fait un communiqué dans ce sens. South African Airways a fait un communiqué disant que cet aéroport est difficile pour nous tous. Est-ce qu'il faut laisser les Moussois seuls dans leur situation plutôt que de trouver des solutions pour que les avions continuent de descendre sur le Lubumbashi au lieu de venir sur Kinshasa payer plus de 300 dollars américains pour chercher une autre compagnie montée sur Bruxelles? Vaut mieux que les compagnies descendent sur le Lubumbashi, on l'espère, sur Matadi, plus tard, sur Goma, sur Bandundouville même. Comme ça, on va se dire que notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays qui a pied dans la mondialisation et tout ça.
Le gouvernement fait la sourde oreille.
Ce n'est pas le seul dossier dans lequel le gouvernement ne bouge pas assez. Il y en a tant. On a parlé de la situation de l'Équateur, les énergies qui étaient là, le gouvernement ne savait pas le voir, les aéroports, la santé des Congolais. Le gouvernement n'agit pas assez. C'est ça le problème de fond.
Merci Thierry Lebika. Marie-Théodore, comment se présente votre aéroport à Bandundu?
Je n'ai pas bien compris votre question.
J'ai dit, comment se présente votre aéroport là-bas? Est-ce que cet aéroport connaît aussi des problèmes?
Oui, écoutez, les aéroports dans le Bandundu, c'est capitaine. Il faut venir les voir. L'aéroport de Bande, l'aéroport national de l'aéroport de Bassoko à Bandundu, chef de la province, eh bien, le bout de la piste est fait. Il faut prendre pour l'atterrir, l'année dernière pour la vie de Tukut. Toutes les autres pistes, par exemple, à Nyoki, à 12 minutes, à 15 minutes de vol de Bandundu, la piste est en terre. À Inongo, la piste est en terre. À Iki, la piste est en terre. À Idiofa, la piste est en terre. À Tembo, la piste est en terre. Pratiquement les deux aéroports qui pouvaient recevoir des gros porteurs, c'est l'aéroport de Bandundu et de Kikri, mais sont dans un état tout à fait piteux.
Et le gouvernement provincial ou le gouverneur ne fait rien pour réhabiliter cet aéroport?
Écoutez, Radio Capi, si j'avais à répondre à cette question, je vous dis tout simplement que ce n'est pas aujourd'hui que le gouverneur voit. Il se colle de cet aéroport là tous les jours. C'est tous les jours qu'il quitte Bandundu qu'il va à l'étranger, c'est tous les jours qu'il quitte Bandundu qu'il va à Kinshasa. Il voit la piste de l'aéroport, mais je vous dis que juste aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens pour que la piste soit améliorée.
Merci Marie-Théodore Kipoulou, je considère ça aussi comme votre conclusion. Clément Zao, finalement la solution c'est quoi?
Est-ce que les gouverneurs ont l'argent pour réhabiliter les aéroports? C'est ça aussi la question. Est-ce que les gouverneurs ont dans leur budget d'investissement prévu le crédit pour réhabiliter les aéroports? Les aéroports appartiennent à la RVA. La RVA qui est une entreprise commerciale de l'État, la RVA qui a un ministère de tutelle, le ministère des Transports, tutelle technique, et un ministère, la tutelle de la politique, c'est le portefeuille. Donc il revient au gouvernement de faire tout un projet, tout un programme pour réhabiliter nos aéroports. Il n'y a pas que dans les Bandundu, les aéroports sont, les pistes sont interbattues. Dans le Bas-Congo, tous les aéroports. Quand vous allez à Matadi, vous allez à Boma. Quand il pleut, vous ne savez pas décoller de l'aéroport de Tchoupi ou de Boma. C'est grave. Pourtant, la ville de Boma, c'est la toute première capitale de la République démocratique du Congo. C'est une ville touristique. Comment voulez-vous drainer les touristes à Boma si vous n'avez pas une piste où les avions peuvent atterrir? Mwanda, on est en train de réhabiliter grâce à l'appui de quelqu'un. Je pense qu'il faut que le gouvernement signe des partenariats public-privé. L'aéroport des A20M, mais quand vous voyez cet aéroport, mais c'est fait par des privés. Tout ce que vous voyez là, la modernisation, c'est un partenariat public-privé. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Si le gouvernement n'a pas les moyens, il faut ouvrir ces secteurs pour permettre à ce qu'on puisse se réhabiliter et ces gens-là vont récupérer. Quand je vois les gens qui perçoivent de l'argent à l'aéroport de Njili ici pour accéder au parking,
papa son fils a 3000 francs au Rokota et puis qu'on a repris 500 francs. Donc, ils prennent 3500 mètres dans leur poche plutôt que de payer 6 dollars dans la caisse de la RDA. Mais qui le font? Ce sont des hommes manifestants.
Merci Clément. Thierry, dernier mot?
Dernier mot, c'est de calmer tout le monde, que nous aimons ces pays, nous voudrons un jour qu'en descendant en Chine, on se sente à l'aise comme à Jomo Kenyatta à Nairobi, ou encore, pour faire mieux, comme en Libertango à Johannesburg. Hein. Ce n'est pas impossible, nous avons beaucoup de potentialités que les Kenyans n'ont même pas par le tourisme, mais pourquoi les Kenyans peuvent avoir un meilleur rapport que la République démocratique du Congo, mon pays? Je ne me l'explique pas, je ne peux jamais me l'expliquer.
Voilà, merci, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Hong, Samuel Kachat et Mekamoua, sur la supervision de Ben Kabamba. La technique était assurée par Lini Kindou. Au micro, Kéline Fouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocatu.net. Avant tout, de programme sur la fréquence de la paix.